OK, on va commencer notre 69e leçon dans notre série sur la théologie systématique. Ce soir, nous allons voir la loi de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par la loi de Dieu? C'est le décalogue, les 10 commandements, la loi morale. Appelez-le comme vous voulez, c'est tout des synonymes. Je dirais qu'une bonne compréhension de la loi est extrêmement importante pour bien comprendre l'Évangile. Les deux vont ensemble. Et c'est important de comprendre la loi. Alors, je dirais que c'est essentiel. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, on pourrait dire qu'il y avait plus de lois que d'évangiles, tandis que dans le Nouveau, on peut dire qu'il y a plus d'évangiles que de lois. Alors, comme je viens de vous le dire, la nature et le rôle de la loi sont essentiels pour la compréhension de l'Évangile. La première chose qu'on va regarder dans les Saintes Écritures, c'est que la Bible utilise des mots différents pour parler de la même chose, qu'on appelle la terminologie. Le mot « loi » peut signifier différentes choses dans les Saintes Écritures. Nous devons apprendre à interpréter correctement ces différents sens en examinant attentivement le contexte dans lequel le mot est employé. C'est souvent le truc. Quand on se promène soit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, surtout dans le Nouveau, et qu'on arrive sur le mot « loi », c'est normalement le contexte qui va nous indiquer de quelle loi on parle. Par exemple, les Écritures utilisent le terme « la loi de Moïse » pour parler de la Pentateuque. La Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alors, la Bible utilise le mot « la loi de Moïse » pour parler de la Pentateuque. Alors, par exemple, dans Luc 24, verset 44, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Voyez-vous, il divise l'Ancien Testament vraiment en trois parties. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Il parle dans la loi de Moïse, donc dans les 5 premiers livres de la Bible, on parlait déjà de lui. Dans les prophètes, bien là, il prend l'ensemble des livres des prophètes et les psaumes. Autre utilisation du mot « loi », parfois le mot « loi » dans les Saintes Écritures veut désigner l'ensemble de l'Ancien Testament. Jean 10, verset 34, par exemple, « Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi ?» J'ai dit, vous êtes des dieux. Et voyez-vous, ça, c'est une référence au psaume 82, verset 6. Alors, il utilise votre loi pour parler d'un passage qui est dans les livres des psaumes, donc dans l'Ancien Testament. Jean 12, verset 34. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Alors ici, nous avons appris par la loi, ça réfère au psaume 102, versets 27 et 28, et également à Ésaïe 9, versets 5 et 6, dans lesquels on parle de l'éternité du Christ. Il dit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Ça fait référence à deux passages, un dans les psaumes, un dans Ésaïe, et il utilise le mot loi pour parler de l'Ancien Testament. Parfois, les Écritures vont utiliser le mot « loi » pour parler des Saintes Écritures au complet, la Bible au complet. Alors, par exemple, psaume 19, verset 7, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Alors ici, dans le contexte, on parle de la loi de l'Éternel, on parle de la Bible au complet. Ésaïe 2, verset 3, des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Et dans le contexte de Sion sortira la loi, ça fait une référence au Christ lui-même. Donc ici le mot « loi » réfère au Messie lui-même. Romains 3, verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Voyez-vous, Pentateuque, Ancien Testament, Bible au complet. Alors, faut, dans les différents passages, faut faire attention pour pas faire dire au mot loi ce qu'il ne dit pas. Sans ça, on part dans des mauvaises interprétations. Aussi, les lois, dans les Saintes Écritures, on parle aussi de l'ensemble des lois divines données à Israël. Et ça, on l'a répété souvent, il y a trois sortes de lois que l'Éternel avait données au peuple d'Israël. Il y a d'abord la loi morale, le décalogue, les 10 commandements. C'est important de savoir les noms, parce que on parle de la même chose, mais c'est important de savoir les noms. Quand on parle de la loi morale, on parle toujours des 10 commandements. Quand on parle du décalogue, on parle toujours de la loi morale. C'est juste de s'habituer avec des termes différents pour parler de la même chose. Alors, il y avait les lois cérémonielles qu'on appelait. Les lois cérémonielles, c'était Dieu qui donnait des règles au peuple d'Israël sur leur culte religieux. Ça devait pas se faire n'importe comment, ça devait pas se faire n'importe où. C'était encadré par le Seigneur lui-même. Alors, les lois cérémonielles incluaient les lois qui concernaient les sacrificateurs, concernaient les sacrifices, concernaient les fêtes, concernaient les jeûnes, les ablutions, les rites, la circoncision, la question qu'un animal était pur ou impur. Et toutes ces choses-là font partie de la loi cérémonielle. Le Nouveau Testament nous parle des lois cérémonielles de l'Ancien comme étant des ombres, des figures ou des types. Le Nouveau Testament nous apprend qu'elles avaient pour fonction de conduire à Christ. Par exemple, quand on étudie le tabernacle c'était vraiment faisait partie des lois cérémonielles et ça a été aboli à l'arrivée de Christ. Mais toutes ces choses-là pointaient vers Christ. Galates 3, verset 24, « Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. » Vous voyez, on parle de la loi, du décalogue, de la loi morale, des 10 commandements comme étant un pédagogue. Donc, la loi, c'est un professeur. Si la loi devait être abrogée, on parle des lois cérémonielles, à cause de leur faiblesse, de leur défectuosité, de leur inutilité, de leur impuissance à ôter le péché. Alors, on avait vu dans la leçon précédente toute la question de l'abrogation de la loi, mais quelle partie de la loi? On parlait des lois cérémonielles. Maintenant, Hébreux 7, versets 18 et 19. « Il y a ainsi l'abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. » Car la loi n'a rien amené à la perfection et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Hébreux 10, versets 10 et 11. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Vous, dans ce temps-là, c'est des choses qui étaient symboliques du Christ, mais que ça n'enlevait pas les péchés, et c'est pour ça que ça a été abrogé. Maintenant, il y avait une autre partie que Dieu avait donné ses lois au peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle la loi judiciaire. La loi judiciaire comprenait tous les aspects les aspects civils, qu'on pourrait appeler les lois civiles, et les lois politiques. Donc, le peuple d'Israël, ça devait être gouverné d'une certaine façon. Par exemple, Deutéronome, verset 17, verset 8 à 11, « Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, te choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras, et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. » Voyez-vous, ça dit « Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront, et à la sentence qu'ils auront prononcée, tu ne te détourneras pas de ce qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. Donc, l'aspect des lois civiles. Ces lois précisaient la punition des offenses contre la personne et contre la propriété. Si vous regardez l'Ancien Testament, par exemple, dans Deutéronome, vous allez souvent voir ça. Si un gars faisait telle affaire envers un animal, si un gars faisait telle affaire envers la femme du prochain, il y avait toutes des règles là, que le Seigneur avait données à son peuple pour qu'il soit bien géré. Elles encadraient également la royauté. Donc, un exemple de ça, Deutéronome 17, versets 14 et 15, le peuple d'Israël ne pouvait pas nommer une personne qui n'était pas une Israélite pour devenir leur roi. Alors ça, c'était à partir des lois civiles que le Seigneur avait données au peuple d'Israël. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, « Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères et tu ne pourras pas te donner un étranger. Qui ne soit pas ton frère. » Voyez-vous, c'était de la sagesse de la part de Dieu de permettre qu'il ne pouvait pas y avoir une personne qui ne soit pas israélite pour diriger, devenir roi du pays. Alors, c'était les lois de la théocratie, donc données par Dieu pour leur conduite et pour leur gouverne. Ils n'avaient pas le droit de créer de nouvelles lois. On va donner quelques exemples de ces lois civiles-là sans aller dans les passages, juste donner une liste pour qu'on se réfère. L'héritage, par exemple. On ne donnait pas notre héritage n'importe comment, il fallait que ça reste dans la tribu. Par exemple, le don de descendance à la femme de son frère décédé sans laisser d'héritier. Vous vous souvenez de ces passages-là? Le sabbat de la terre. Aux 7 ans, il fallait qu'il laisse la terre se reposer. Au 50 ans, le jubilé. La relâche des dettes et des frères esclaves la 7e année et lors du jubilé. C'était d'une très, très grande sagesse quand on y pense. Aujourd'hui, les gens s'endettent et n'arrêtent pas de s'endetter. Le Seigneur faisait en sorte que quand les gens s'endettaient, à la 7e année, les dettes étaient toutes effacées. Puis à la 50e année, c'était le jubilé. Il y avait toutes sortes de libérations qui se faisaient. C'était comme une façon pour le Seigneur de venir un peu contrôler les appétits un peu trop féroces de certains Juifs. Il y avait aussi des règlements concernant le prêt usuraire. Imaginez-vous, à l'époque de l'Ancien Testament, 1%, c'était considéré comme du prêt usuraire. Aujourd'hui, on est rendu à 30 et même plus. La glanure des récoltes. Quand les récoltes se faisaient, il fallait qu'on laisse une certaine partie, autrement dit les glanures, c'était que tu faisais exprès pour ne pas tout ramasser, pour en laisser une certaine partie pour les pauvres du pays. Tu avais le divorce aussi, une certaine réglementation du divorce. Tu avais toutes les cités de refuge. Tu avais les épouses suspectes de l'adultère. Vous souvenez-vous que la femme, l'époux, donc, il soupçonnait sa femme de l'avoir trompée, il faisait boire des choses, il y avait toute une... C'est une façon de vérifier si c'était vrai ou non. Il y avait les vœux. Et là, on pourrait allonger la liste. Mais dans le fond, c'est de voir qu'est-ce que c'était les lois judiciaires, donc les lois civiles et politiques qui encadraient la vie d'Israël. Ces lois ne lieraient pas les nations, mais seulement les Juifs jusqu'à la venue de Christ. On en a un résumé dans Deutéronome 4, versets 6 à 8. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Vous les observerez, vous les maîtrisez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est, en effet, la grande nation qui ait des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes comme cette loi que je vous présente aujourd'hui? Le Seigneur lui-même disait que les nations étaient pour reconnaître que leur loi était juste. Ces lois ont cependant été imitées pour constituer la base législative de beaucoup de pays. Par exemple, si on prenait l'ensemble des codes de loi du monde entier et qu'on regarderait jusqu'à quel point ces codes de loi-là ont été influencés par la Bible, c'est incroyable. Aujourd'hui, seulement peut-être les historiens du droit dans les différents pays pourraient aller nous expliquer jusqu'à quel point la Bible a influencé les codes de loi des différents pays. Maintenant, on arrive à celle que nous, on veut parler ce soir, la loi morale. Ce sont les 10 commandements de Dieu, appelés parfois le décalogue. Le mot décalogue vient de deux parties du mot, déca, qui veut dire 10. On parle de décalite, on peut parler de décamètre, des choses comme ça. Ça signifie 10 et logos qui signifie parole, donc les 10 paroles. Aussi, le Seigneur utilise l'expression les 10 paroles, parler des commandements. Vous, 4 choses. La loi morale, les 10 commandements, les 10 paroles et le décalogue. Exode, on va les lire rapidement. Exode 20, verset 3 à 17. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Dans Matthieu 22, verset 36 à 40, on a... Le Seigneur s'est fait demander la question, quel est le plus grand commandement de la loi? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. On a un exemple dans Romains 13, versets 9 et 10, de la deuxième table de la loi, donc celle qui concerne nos devoirs envers notre prochain, donnée par Paul. Paul dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut encore y avoir, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Le décalogue, une chose qui est importante à savoir, c'est qu'il lie les hommes, tous les hommes, universellement, éternellement, invariablement et inaltérablement. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est la loi, son auteur et son donateur. Alors, les Écritures sont assez claires sur le sujet. Dieu l'a dite et aussi écrite. Dieu les a écrites sur des tables de pierre. Alors, je pense que c'est fortement symbolique, le fait qu'il les fait sur des tables de pierre. Qu'est-ce que la caractéristique de la pierre? C'est que ça dure. Ça signifie leur durabilité et également leur solidité. Les 10 paroles ont été écrites du doigt même de Dieu par le ministère des anges et par le médiateur Moïse. Cependant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il existait une loi avant le décalogue? Oui, si l'homme n'eut aucune loi, il n'y aurait pas eu de transgression ni de punition infligée, pas de culpabilité, pas d'imputation, pas de mort. La loi positive était celle donnée à Adam et la loi naturelle était inscrite dans le cœur, la conscience et la nature, telle qu'on le lit dans Romains 1, verset 18 à 20. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Romains 2, versets 14 et 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Alors, on est en train de dire que Dieu avait inscrit dans le cœur de l'homme l'équivalent de sa loi morale. Alors, l'homme, quand il vole, même s'il n'a jamais lu la Bible de sa vie, il sait qu'il fait mal, etc. pour les autres commandements. Maintenant, quel est le rôle de la loi? Ça, c'est d'une importance capitale, parce que si on se trompe de ce côté-là, on peut arriver à des hérésies. Le rôle, c'était de défendre, de restreindre et de punir. Galates 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Donc, si on regarde l'ensemble des lois, il y a du « tu ne feras pas » ou « tu feras ». C'est comme, il y a du positif et du négatif. Donc, ça dit, ça défend, ça restreint ou ça punit. Autre rôle de la loi, c'est celui de révéler. Romains 3, verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » La loi, c'est comme un miroir. Et que quand les hommes l'ont placé devant eux, ils ne peuvent pas faire autrement que de voir qu'ils ont des manquements, soit envers Dieu ou soit envers les hommes. Romains 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, le rôle de la loi, c'était de faire en sorte que les hommes se rendent compte de leur péché. Et mais n'importe qui, devant la loi, puis il prononce ce qu'on a lu tantôt, mais bien expliqué, parce que les pharisiens de l'époque avaient l'impression qu'ils étaient capables d'y obéir à la perfection. Mais quand Christ est venu, il leur a donné une explication de jusqu'où ça va, les exigences de la loi. Et là, ils ont comme dessoufflé un petit peu. Romains 7, versets 12 et 13. La loi, donc, est sainte. Ici, dans le contexte, on peut le savoir par le contexte, là, on parle du décalogue, on parle de la loi morale. La loi, donc, est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Aussi, autre rôle de la loi, c'était celui de manifester ses exigences. Les exigences de la loi sont infiniment plus larges et plus profondes que les hommes sont naturellement portés à imaginer. Leur portée va jusque dans les pensées et le cœur, tel que le Seigneur Jésus-Christ a bien fait comprendre dans le Sermon sur la montagne, les chapitres 5 à 7. De l'Évangile de Matthieu, par exemple, sont d'une importance capitale. Si on veut comprendre, le Seigneur explique aux pharisiens jusqu'où ça va, les exigences de la loi. On a souvent utilisé l'exemple. Eux avaient l'impression que si jamais il y avait de relation avec une femme autre que leur épouse, qu'il n'y avait pas de problème, il n'avait jamais commis l'adultère. Le Seigneur a dit, même penser de le faire, c'est aussi péché que si tu l'avais fait. Alors là, il est en train de leur montrer que les exigences de la loi sont beaucoup plus profondes que l'homme. Et quand on les étudie, quand on étudie le décalogue en profondeur, par exemple, dans la partie du livre d'Exode, j'avais déjà donné une série sur le décalogue et on se rend compte que c'est très, très exigeant. Et ça va loin, beaucoup très loin. Troisième point, on va regarder la loi, ses propriétés. La première propriété de la loi, là, les Écritures disent qu'elle est parfaite. Psaume 19, verset 7, « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Elle comprend tous les devoirs de l'homme envers Dieu, envers notre prochain. Elle est excessivement et rigoureusement exigeante, tant dans sa largeur que dans sa profondeur, que dans son extension. » Deuxième propriété, elle est spirituelle, dans sa nature et dans ses exigences. Romains 7, verset 14, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » On parle de Paul ici. Paul était conscient de son péché à cause de la loi, justement. « Elle s'étend jusqu'aux pensées du cœur et aux intentions du cœur. Elle défend et identifie toute pensée irrégulière et inordonnée et ses désirs. » Dans le fond, c'est que quand le Seigneur dit, par exemple, dans notre sermon sur la montagne, « Celui qui dit à son frère Raca, ça veut dire insensé, il est coupable pour aller dans la géhenne. » Il dit que même ce petit péché-là, que nous on appelle un petit péché, Dieu dit, pour moi, c'est pas un petit péché. Le gars qui dit ça à son frère, il est coupable de la GN. Alors, il est en train de leur montrer que les exigences de la loi sont infiniment plus profondes que les pharisiens de l'époque le comprenaient. Exemple, le sixième commandement condamne le meurtre, mais ça inclut également la passion, la colère, le ressentiment, la vengeance en pensée, en parole, en action. Qui ne sait pas déjà voulu se venger de quelqu'un dans sa tête? Oh mon Dieu! S'il aurait fallu que toutes les pensées de vengeance des hommes s'exécutent, le monde, probablement, il ne resterait plus grand monde sur la terre. Parce que l'être humain est bien capable de faire des choses semblables. Exemple, septième commandement. Défend l'adultère, mais inclut toutes les pensées sexuelles illicites, la fornication, les paroles impures, les désirs, les regards, etc. Alors, quand on regarde l'ensemble des 10 commandements et qu'on met ça en rapport avec le sermon sur la montagne et d'autres passages du Nouveau Testament, on se rend compte que la loi, les Juifs n'avaient vraiment rien compris de son exigence. Elle requiert l'obéissance parfaite, tant extérieure intérieur. Voyez-vous le problème des pharisiens, même Paul, il se pensait qu'il avait son obéissance à la loi, il y avait quand même de la vérité dans ce qu'il disait, mais c'était une obéissance extérieure. Dès que tu rentres dans l'intérieur de l'homme, le péché pullule à une... ça fait épeurant. Romains 7, verset 15 à 25. Car, ici c'est Paul qui parle, car je ne sais... Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ézéchiel 36, verset 27, prophétie, le Seigneur dit, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Troisième caractéristique, c'est qu'elle est sainte, juste et bonne, telle qu'on le lit dans Romains 7, verset 12. La loi, donc, est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Cette parole est certaine. Quatrième caractéristique, elle est profitable, dans Tite, chapitre 3, verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Psaume 19, verset 12. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Psaume 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Elle est profitable pourvu que nous en fassions un usage légitime. Et ça, ici, là, c'est d'une importance capitale à saisir. La loi, elle lie encore le chrétien après sa régénération, mais il faut que nous en fassions, tel que le dit les Écritures, un usage légitime. Qu'est-ce qu'on veut dire par un usage légitime? On va commencer par exemple, un usage illégitime de la loi serait d'essayer de gagner le salut par son observation. Si je prends les 10 commandements, puis que je suis irrégénéré, puis j'essaie de gagner mon salut en obéissant à la loi, aux 10 commandements, c'est sûr que je vais manquer mon coup. Parce qu'il n'y a aucun homme qui n'a jamais fait ça, d'aucune époque, d'aucun temps, et il n'y en aura jamais qui seront capables de le faire. Et ceux qui ont cru être capables de le faire, c'est parce qu'ils n'en comprenaient pas ses exigences et son étendue. On ne peut pas gagner notre salut par l'observation. C'est en Jésus-Christ qu'on gagne notre salut. Parce que lui, il l'a accompli à la perfection, et c'est sa justice qui nous a été imputée. Un aspect légitime est donc de l'observer par amour et pour la gloire de Dieu. Donc, on va regarder l'usage de la loi, quatrième point. Il y a deux usages. Il y a un usage pour les pécheurs, puis il y a un usage pour les croyants. On va commencer pour les pécheurs. Les Écritures nous disent que un des usages de la loi pour les incroyants, c'est de le convaincre de péché. Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Si vous voulez montrer à quelqu'un son péché, il n'y a pas de meilleur outil que la loi. C'est ça que les Écritures nous disent. La loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Si je dis à quelqu'un, as-tu déjà menti? Parce que la parole nous dit de ne pas mentir dans la loi. Si je dis à quelqu'un, as-tu déjà eu une mauvaise pensée sexuelle? S'il dit non, je vais dire, t'es menteur, je pense. Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras pas. Alors, c'est la loi qui nous montre notre péché. C'est comme un miroir. Premier usage pour les pécheurs, convaincre de péché. Deuxième usage pour le pécheur, restreindre le péché par les lois des hommes. Si on regardait l'ensemble des lois des hommes de tout pays, par exemple, le droit, pas avoir le droit de tuer quelqu'un. Alors, l'ensemble, la loi de Dieu influence, comme on l'a dit tout à l'heure, les codes de loi des différents pays, et ça a un effet de restriction du péché. Moi, je vais juste me reculer, disons, d'une cinquantaine d'années, que je me souviens quand j'étais jeune, c'était la loi, le décalogue, les 10 commandements, tels qu'enseignés par l'Église catholique. ça avait quand même un certain aspect de restreindre le péché dans les générations de là, 50 d'années. Je ne dis pas que ça faisait la job de salut, mais je dis que ça restreignait le péché. Ça l'empêchait le monde de voler, ça l'empêchait le monde de coucher avec la femme du voisin, et des choses semblables. Ça, donc, ça avait un effet de restriction. Autre restriction qu'elle a pour, autre, c'est-à-dire usage qu'elle a pour le pécheur, elle sert à la condamner et à punir son péché. 1 Timothée, chapitre 1, verset 8 à 10. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Voyez-vous, ici, le verset est très, très sage. Pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la loi? Elle accuse, elle inculpe, elle fait taire le pécheur lorsqu'il veut plaider sa cause. Elle prouve son péché, elle le déclare coupable devant Dieu, elle le maudit, et elle le condamne. C'est ça que la loi pour le pécheur, c'est ça la loi, qu'est-ce que ça fait. Pas très gai pour lui. Pour les justes, maintenant, je dois vous dire que, dépendamment des courants théologiques ou des traditions théologiques, par exemple, le dispensationaliste ne reconnaît pas le rôle de la loi dans la vie du chrétien après sa régénération. Les autres, ils disent que c'est une dispensation. Alors, on n'est plus sous cette dispensation-là, donc elle n'a plus d'influence sur nous, elle ne nous lie plus, si vous voulez. Alors, le dispensationnalisme enseigne ça. Alors, pour les justes, elle sert à pointer la volonté de Dieu envers eux. Elle apprend aux justes ce qui doit être fait et ce qui doit être évité. Dans ce sens-là, la loi, pour nous, c'est, si on en fait un usage légitime, c'est pas dans le but de vouloir vouloir gagner notre salut avec. C'est qu'elle nous montre ce qu'on ne doit pas faire et ce qu'on doit faire. Elle sert aussi de règle de vie et de conduite. Proverbe 6, versets 20 à 23. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière pour mon sentier. Aussi, on a déjà tous entendu ce verset-là dans Jacques, Jacques 1, verset 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Compare ça à un miroir. Il dit, si tu fais juste écouter la parole, ça ne donne rien. Il faut que tu l'écoutes, puis que le miroir, il te renvoie quelque chose. Qu'est-ce qu'il te renvoie, le miroir de la loi? Le péché. Il te renvoie toujours ton péché. Alors, le fait de la quitter, puis de s'en aller, puis d'oublier ce qu'elle t'a dit, c'est comme il est en train de te dire, si tu ne tiens pas compte de ce qu'elle t'enseigne, de ce qu'elle te reproche, puis tu n'essayes pas d'amener des corrections à ça, des changements, une repentance au péché qu'elle t'enseigne, au péché qu'elle te révèle, à ce moment-là, il dit, c'est dangereux ce que tu fais là. Très, très dangereux. Elle sert aussi, je dirais peut-être que l'outil que, pour moi personnellement, que je trouve le plus glorieux de la loi, c'est qu'elle nous sert d'outil d'appréciation et de valorisation. Elle permet au juste d'apprécier et de valoriser la justice de Christ imputée aux croyants. Cette justice de Christ est absolument parfaite, sans faille aucune. Vous allez m'entendre souvent dire ça. Moi, je suis un amateur de dire ça. Vous allez m'entendre. Puis je vais tellement le dire souvent qu'il va venir un temps que vous allez le savoir par cœur. La justice de Christ, c'est le fait que quand Jésus est venu sur la terre, il a accompli la loi de son Père à la perfection. Les quatre commandements dans nos devoirs envers Dieu, pas qu'il était lié par ça, lui. Il n'était pas lié par ça. Il le fait substitutivement. Il le fait en langage théologique, vicarialement. Vicarial, ça veut dire, quand on parle d'un vicaire, c'est celui qui remplace le curé. On dit, ah, c'est le vicaire. Le vicaire, c'est celui qui remplaçait le curé. Alors, vicarial, ça veut dire remplacer. Le Seigneur a fait la loi, a accompli la loi, a obéi à la loi, autant dans l'aspect de nos devoirs envers Dieu que dans nos devoirs envers les hommes, à la perfection. Dans les pensées, dans ses actions, dans ses paroles, il n'y a jamais eu d'omission, il n'y a jamais eu aucun péché secret. Il l'a accompli à la perfection. Pour qui? Pour nous, pour nous la mettre sur notre compte. Dieu nous voit comme ayant accompli la loi à la perfection. Imaginez-vous. Moi, je dis que la loi, si tu la comprends bien, ça te fait véritablement apprécier le fait que les exigences de Dieu ont été rencontrées par Christ et que c'est cette justice-là que Dieu nous impute, met sur notre compte, fait comme si on l'avait fait nous-mêmes, alors qu'on sait très bien qu'on ne l'a pas fait nous-mêmes. C'est lui qui l'a fait. Et aussi, c'est lui qui a pris la punition, qui aurait dû être la nôtre, encore là, vicariellement, substitutivement. Obéissance active, obéissance passive, c'est une clé de compréhension de l'Évangile. Maintenant, dernier point, la loi, sa continuité. Matthieu 5, versets 17 à 18. Important, Matthieu 5, versets 17 à 18, parce que c'est dans le cadre du fameux sermon sur la montagne. Et le Seigneur vient rappeler quelque chose aux pharisiens, aux juifs de l'époque. Il leur dit, « Un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. » Ici, on parle du décalogue. « La loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Il a accompli la loi à la place de ses élus. Il n'est pas venu pour l'abolir, il est venu pour l'accomplir. Car je vous dis, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Pour apprécier, ici, il faut voir un peu l'écriture hébreu. C'était vraiment des petits symboles, des petites choses dans l'écriture hébreu. Il dit, tant le ciel et la terre vont demeurer, il n'y a rien de la loi qui va s'enlever. Maintenant, on entend souvent, surtout de la part des dispensationalistes, on va entendre souvent l'expression « Nous ne sommes plus sous la loi ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, cette expression-là. Moi, je l'ai entendu des multiples de fois. Et j'ai lu un article écrit par Fred Malone sur la compréhension de Romains 6, 14 et 15. Et lui, à un moment donné, il est venu pour devenir pasteur avec, je ne me souviens plus lequel du nom du gars, là. Il est devenu assistant de ce gars-là. Il était plus, à cette époque-là, il était plus âgé, plus expérimenté. Il dit, si tu veux être mon assistant pasteur, il dit, faut falloir que tu comprennes Romains 6, versets 14 et 15. Et il a fait un article que j'ai à la maison sur l'explication de ce passage-là. Et c'est il a fait un job, comme on dit, monumental, un travail extraordinaire. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Là, les gens pensent que ça veut dire qu'on n'est plus sous la loi, ça veut dire que la loi n'a plus de place dans nos vies, qu'elle ne nous lie plus d'aucune façon. La façon de comprendre ce passage-là, il faut absolument, selon toutes les règles d'interprétation, que tu fasses comme d'habitude, que tu ailles voir ce qui a été dit avant, puis tu ailles voir ce qui a été dit après, et là, ça va prendre un éclairage complètement différent de ce que tu es en train de vouloir lui faire dire, qu'elle ne dit pas, en fait. Quoi donc pécherions-nous donc parce que nous ne sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Alors, c'est pas l'exercice de ce soir d'exposer ce passage-là, mais c'est un passage important, très important à bien comprendre et à être capable de défendre. Nous devons le comprendre en tenant compte des enseignements bibliques suivants. Nous ne devons pas chercher le salut par l'obéissance au commandement. Alors, les conclusions que je suis en train de vous dire, l'étude qu'il a faite, là, il vous donne en résumé ces cinq choses-là. Ce que ça veut dire, nous ne sommes pas sous la loi, ça veut dire que nous ne devons pas chercher le salut par l'obéissance aux 10 commandements. Ça veut dire aussi, nous n'avons plus à obéir aux lois cérémonielles et judiciaires de l'Ancien Testament parce qu'elles ont été abrogées à la venue de Christ. Ça veut dire aussi, les chrétiens ne subiront pas le châtiment rattaché à la désobéissance de la loi. Vous, aujourd'hui, est-ce que vous avez péché? On pêche tous les jours. Il y avait une expression catholique qui disait « Même le plus grand saint pêche 7 fois par jour. » Je suis d'accord avec ça. Puis ben, je dirais même plus que 7 fois par jour. L'affaire est que nous, à cause du fait que le Christ a subi le châtiment que nous aurions dû subir à notre place, qu'il a accompli la loi que nous aurions dû accomplir à notre place, si, quand on va se présenter devant le Seigneur, nos péchés ne seront pas jugés à la lumière de la loi. Parce que pour nous, ça s'est réglé, la question de la loi. Alors, nous ne sommes plus sous la loi dans ce sens-là. Et les chrétiens, donc, subiront pas le châtiment et ne sont plus condamnés par la loi. Si vous péchez aujourd'hui, le pécheur qui pêche aujourd'hui, qui n'est pas régénéré, qui n'appartient pas à Christ, donc, son châtiment n'a pas été payé par Christ, donc, la loi, pour lui, n'a pas été accomplie, et lorsqu'il se présente, lui, il va être condamné par la loi. Nous, on n'est pas condamné par la loi parce que toute la question de la loi, nous ne sommes plus sous la loi dans ce sens-là. Christ l'a accompli à notre place, autant dans son aspect positif que dans son aspect négatif. Cependant, le décalogue demeure comme règle de vie et de conduite et pour les autres usages légitimes déjà mentionnés. On en parlait tout à l'heure, nous faire apprécier, nous servir de règle de conduite, etc. Des choses qu'on a nommées tantôt. 1 Corinthiens 9, versets 20 et 21, Paul dit, « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » J'ai trouvé 5 applications à la leçon d'aujourd'hui. La première, nous devons apprendre à distinguer les différents sens du mot « loi » pour comprendre et interpréter correctement les Saintes Écritures. Deuxième application, nous devons savoir qui a conçu et donné la loi, où, quand, comment et pourquoi. Aussi, que la loi existait avant Moïse, mais pas sous la forme du décalogue. Adam s'était fait donner une loi. La nature elle-même, la conscience et la mort des hommes nous montraient que s'il y avait eu aucune loi, l'homme n'aurait pas pu être condamné. Troisième application, nous devons connaître ses propriétés. Elle est parfaite, elle est spirituelle, elle est sainte, elle est juste, elle est bonne, elle est profitable, en autant qu'on en fasse un usage légitime. Quatrième application, nous devons connaître son usage pour les pécheurs, convaincre de péché, restreindre, condamner, punir. Pour le juste, pointer la volonté de Dieu, règle de vie et de conduite, miroir, appréciation de la justice de Christ imputée. Cinquième application, nous devons connaître sa continuité envers les pécheurs et envers les justes, de ce qu'elle nous libère et aussi de ce qu'elle nous lie. Alors, il faut savoir, elle nous libère de quoi, puis elle nous lie de quoi. Que l'Éternel soit loué pour sa sagesse infinie. Amen.
Amen.